Sur la première, CQFD. Stéphane Gabin.
Anti-Cov, c'est le nom donc de cette grande étude en Afrique sur les cas légers de Covid-19. Adrien Zerbini.
Oui, c'est une étude très intéressante à beaucoup de points de vue, notamment parce qu'elle est adaptative, c'est-à-dire qu'elle s'adapte en temps réel aux connaissances scientifiques sur le Covid-19. Lorsqu'elle a débuté en septembre 2020, elle testait différentes molécules au nom désormais assez connu, lopinavir, ritonavir ou hydroxychloroquine. Mais en décembre 2020, ces premiers bras de l'étude ont été suspendus car l'OMS recommande à ce moment-là de ne plus utiliser ces molécules car le consensus scientifique est clair, elles n'ont pas d'intérêt. Actuellement, un nouveau bras de l'étude est lancé avec deux autres molécules, nitazoxanide et cislesonide. Ce n'est pas encore des noms communs, vous avez remarqué.
Non, effectivement, mais vous les prononcez très très bien déjà.
J'ai passé ma soirée d'hier. Ceux-ci vont être testés dans 13 pays africains. Cette association pourrait prévenir des progressions de la maladie vers des formes sévères et limiter sa transmission.
Nous rejoint dans CQFD Nathalie Strubourgaft. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, directrice en charge de la réponse Covid de DNDi. DNDi, c'est un partenariat à but non lucratif pour soutenir la recherche et le développement de traitements nouveaux et améliorés, notamment pour un continent en voie de développement comme l'Afrique. Alors avant de s'intéresser avec vous à cette étude anti-Cov, peut-être un mot sur la situation du continent africain. Je crois que vous rentrez tout juste de la République démocratique du Congo, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Alors, en République démocratique du Congo, on commence à voir les cas qui remontent un peu. Je crois que la situation en Afrique est mal connue. Et c'est plutôt ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on a environ, maintenant, on a 4 500 000 cas qui ont été rapportés. 120 000 patients qui sont décédés. L'année dernière, pour vous donner une idée, on avait 50 000 cas. Le problème avec l'épidémie en Afrique, c'est qu'on a toujours des incertitudes sur les nombres exacts de patients qui sont infectés. On voit dans les prédictions que les nombres augmentent en fonction des capacités diagnostiques et qui redescendent si les capacités diagnostiques diminuent, si les cas ne sont pas identifiés. Donc je crois que le docteur Moëti, qui est la directrice d'Afro, a fait une conférence de presse la semaine dernière où elle a vraiment alarmé contre le risque d'expansion à nouveau de l'épidémie, de la pandémie en Afrique. Juste en RDC, quand j'étais là-bas, il est vrai que les gens ne portent pas de masque, ou s'ils les portent, ils les portent pas d'une manière qui va les protéger. Les marchés sont en pleine activité, et on peut comprendre pourquoi. Il y a un impact économique tellement terrible avec cette maladie. Donc, je crois qu'il faut être vraiment très prudent et qu'on doit tout faire pour prévenir le scénario absolument terrible qu'on est en train d'observer en Inde.
Alors, on va en venir à Anti-Cov, donc une vaste étude sur les cas légers de Covid. Pourquoi s'intéresser aux cas légers ?
Ben, précisément parce que quand on a commencé cette étude, tout le monde se focalisait sur les formes sévères, ce qui était parfaitement normal, parce que l'idée était d'éviter que les patients meurent du Covid, ce qui est évident. Mais si on réfléchit à ce qui est nécessaire pour soigner un patient qui évolue vers une forme sévère, il va avoir besoin d'oxygène, il va avoir besoin de lits d'hospitalisation, voire de lits de réanimation, voire de ventilation assistée. Or, on sait que dans les pays à faibles et moyennes ressources, ces capacités n'existent pas, qu'il n'y a pas suffisamment de capacités pour traiter les patients, même pour toutes les pathologies, et qu'il n'y a pas suffisamment de staff pour traiter ces patients, et que dans l'hypothèse où on observerait le même nombre, le même pourcentage de patients qui évolueraient vers des formes sévères, ça sera impossible de les traiter. Et malheureusement, c'est ce qu'on est en train d'observer en Inde. Donc l'idée, c'est de traiter les patients très tôt, dès qu'ils sont diagnostiqués, même s'ils ont juste un petit rhume, un peu mal à la gorge et un peu de fièvre, c'est pas grave, c'est là où il faut les traiter. Et ce qui est un petit peu compliqué dans ce qu'on essaye de faire, c'est de les traiter avec des molécules antivirales. Parce que ce qu'on a compris aussi sur cette maladie, on avance en marchant, on comprend en avançant. Enfin, la science évolue vraiment de manière très progressive, mais on comprend maintenant qu'il faut des molécules qui sont différentes pour traiter les formes. Quand on dit légère, on peut dire aussi les formes précoces, ça revient à peu près à la même chose, que quand on traite les formes sévères. Et donc, il faut associer très probablement, et c'est ce qu'on fait dans Anti-Cov, on va y venir, une molécule qui va empêcher le virus de se multiplier très tôt, parce qu'en fait, sa multiplication ne dure pas très longtemps, et d'associer ça à une molécule qui va contrôler l'effet exagéré d'une réponse immunitaire qui devient tellement incontrôlable qu'on arrive aux formes sévères.
Alors justement, on va aller sur ces molécules que vous allez tester, ces deux molécules. On va faire les présentations de la première. Elle s'appelle donc nitazoxanide. De quoi s'agit-il ?
Alors aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'effort de trouver des molécules, on est passé par ce qu'on appelle le repositionnement. Il y a eu un énorme travail travail qui continue d'essayer de regarder dans toutes les brairies de molécules, en particulier celles qui sont déjà sur le marché, celles qui pourraient avoir une activité antivirale. Nitazoxanide fait partie de ces molécules qui est normalement un antiparasitaire, mais comme beaucoup d'autres, et qui ont été retestées sur des modèles dans des tubes à essai où on met le virus et on regarde les concentrations qui permettent d'inhiber la réplication de ce virus. Et on s'est aperçu que nitazoxanide avait un mécanisme qui empêche le virus de rentrer dans la cellule, de faire une fusion et d'ensuite utiliser ce matériel pour pouvoir se multiplier. Ça, c'est l'activité du nitazoxanide.
Qui est une molécule, donc, vous l'avez dit, connue puisque repositionnée, voilà. Ça veut dire qu'elle est pas chère et qu'elle est sûre, en gros, on peut dire
voilà,
ça.
Voilà, et qu'on connaît bien sa tolérance et qu'on sait qu'on n'aura pas besoin de... Enfin, on n'a pas d'inquiétude, si vous voulez, aussi, parce qu'il faut penser aux bénéfices-risques à le donner à des patients qui ont des formes, encore une fois, légères de la maladie. Et on a aussi une on sait que c'est un traitement qui peut être donné par voie orale, parce que bien entendu, il faut qu'on réfléchisse aux patients qui vont recevoir ces traitements et qui doivent les recevoir chez eux.
Et la deuxième molécule que vous allez utiliser dans ce test porte un joli nom, donc cisclésonide. Vous nous faites cette fois la présentation de celle-ci.
Alors, celle-là, c'est le cyclésonide.
Ah, pardon, alors, je n'y suis pas arrivé, alors. On espérait.
Non, mais voilà. Le cyclésonide, c'est un médicament bien connu qu'on donne dans l'asthme. C'est un anti-inflammatoire stéroïdien, donc il est comme de la même classe que le budésonide, sur lesquels on a eu des résultats très récents, très encourageants dans une étude un peu similaire en Angleterre. Donc c'est un médicament qui va avoir une activité anti-inflammatoire, mais dont on pense qu'il pourrait peut-être aussi avoir une activité antivirale. Et la particularité, c'est qu'on va le donner sous forme inhalée, avec une chambre d'inhalation qui permet de s'assurer que le médicament va bien se distribuer dans les poumons, là où il faut absolument contrôler la réponse inflammatoire.
Donc c'est un corticostéroïde, et les corticostéroïdes, voilà. C'est ceux qui pour l'instant montrent le plus d'effets, on le sait, pour les traitements de Covid.
Alors, ils sont donnés pour les formes sévères. Là, la différence, c'est qu'il est moins puissant que la dexaméthasone, qui elle-même, toute seule, ne marche pas chez les formes légères. Mm-hmm. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est, ça demande un tout petit peu d'explication, mais c'est que on pense que, je dirais, l'évolution entre le début de la maladie et la fin de la maladie, disons que ça, enfin la forme sévère, ça prend peut-être une dizaine, 14 jours. Les patients, quand ils sont diagnostiqués, on va les voir entre 2 et 3 jours après l'infection, puisque vous savez qu'au début, il n'y a pas forcément beaucoup de symptômes. Et c'est à peu près vers 7 jours que la réponse immunitaire va commencer à devenir incontrôlable. Et donc nous, les patients, on les traite pendant une période qui couvre la fin de la multiplication du virus. Il y a encore trop de multiplication de virus qu'il faut contrôler, mais aussi le début d'une réaction inflammatoire qui pourrait être trop forte. C'est pour ça qu'on essaie de combiner deux mécanismes d'action pour couvrir une période qui devrait permettre d'éviter vraiment l'évolution vers les formes sévères. Ce qui va permettre non seulement de soulager les systèmes de santé, d'abord de traiter les patients, de soulager les systèmes de santé, mais peut-être aussi d'avoir un effet sur la transmission, si on empêche ce virus de se multiplier.
Alors sur le terrain, vous allez procéder de quelle manière pour tester finalement ce double traitement ?
C'est un essai clinique... C'est un essai clinique standard, donc on a des sites cliniques, on a des protocoles cliniques qui sont conduits dans les 13 pays. Les patients vont être soit randomisés dans ce bras-là, soit randomisés dans le bras paracétamol, qui est notre bras contrôle. Ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'on va réduire de 50%. Donc vous voyez qu'on a des objectifs quand même assez, sur le plan de la santé publique, qui ont du sens. On va réduire de 50% le nombre de patients qui vont devoir être hospitalisés pour une forme sévère.
Et quand est-ce qu'on peut espérer avoir les premiers résultats ?
C'est là où c'est un petit peu compliqué de vous répondre. On a un design qui nous permet d'avoir des analyses intermédiaires, qui nous permettent d'arrêter tôt, soit parce qu'on a des réponses très favorables, soit parce qu'on a des réponses défavorables. Donc on peut être amené à s'arrêter tôt. Tout ça va aussi dépendre de l'évolution de la pandémie dont on vient de parler juste avant. Donc, je pense qu'on pourra avoir des premiers résultats sur la première analyse intermédiaire, je dirais d'ici 2-3 mois. Et puis ensuite, on verra. Si l'analyse intermédiaire ne permet pas de conclure à une réponse définitive, on continue jusqu'à ce qu'on ait inclus à peu près 700 patients dans chacun de ces deux bras.
Eh ben, on espère évidemment que les conclusions, les résultats de cette grande étude anti-COV seront évidemment positifs. Merci pour vos explications très claires, Nathalie Strub-Vourgaft. Je rappelle que vous êtes médecin directrice en charge de la réponse Covid de D&DI qui coordonne donc cette vaste étude. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce matin en direct de Genève.
De 10h à 11h, CQFD.